Mes frères et mes sœurs, les louanges
et
les remerciements appartiennent tous aux vivants qui ne meurent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a tout créé, sans besoin, le premier, par essence et par excellence, le dernier, les djinns et les hommes meurent, et pas lui, subhanahu wa ta'ala, ne subsiste que sa noble face, jalla wa ala. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et contre les tendances de l'âme. Celui que Allah guide, nul ne saurait l'égaré, et celui qui est privé de sa guidée, comment saurait-il être guidé si la source n'est pas l'unique source de la vérité qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pourra être que parmi les égarés. Et donc celui que Allah laisse dans son égarement, tu ne trouveras pas de guide, ni dans le ciel, ni sur la terre. Nous le louons, on ne saurait jamais le louer comme il se doit. C'est lui qui a tout créé sans besoin, c'est lui qui a donné à chaque chose un poids, et sait parfaitement toutes choses. Dans sa miséricorde, il a envoyé le meilleur des hommes pour compléter sa religion en un jour connu des gens de science, pour confirmer qu'il est le seul digne d'adoration, subhanahu wa ta'ala, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes qui tous oscillent entre sa bienfaisance, sa miséricorde, sa pitié vis-à-vis de ses créatures, et sa justice, sa science et sa sagesse. Nous le louons pour tout, en particulier de nous avoir guidés vers l'islam, de nous avoir envoyé le meilleur des hommes, Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin pour nous indiquer, nous qui sommes comme tout un chacun nés, égarés pour nous guider. Nous sommes tous nés certainement aveugles, aveugles de cœur. Allah nous a, subhanahu wa ta'ala, octroyé la fitra, qui est cette saine nature que déforment les égarés sans le savoir, bien entendu, ou en le sachant. C'est lui qui, par qui Allah a déversé, a complété sa religion et déversé sa miséricorde sur les univers. Qu'Allah bénisse ce meilleur, cette meilleure créature parmi les hommes, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui nous ont suivis dans le droit chemin et nous associe à ce bienfait, et quel grand bienfait. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les bienfaits, ils sont innombrables, les cachets étant plus nombreux encore que les apparents, c'est de nous avoir indiqué tout le bien. D'avoir indiqué tout le bien, de nous l'avoir conservé. De nous l'avoir conservé au travers de sa parole incréée que nulle fausseté ne saurait atteindre ni par devant ni par derrière, malgré les innombrables tentatives, qu'il a conservé la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui, par lequel il nous a guidés, nous a fait comprendre sa parole également. Avec ses deux sources, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, et il était à Arafat. C'est le mot rahma. Je vous laisse deux choses. Si vous vous attachez à celle-là, jamais vous ne serez égaré. Le livre d'Allah et ma conduite. Il parlait de sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Allah, au travers donc de sa parole, et il ne parlait pas de lui-même, nous a informé des meilleurs, du meilleur. Et Allah exige de l'excellence en toutes choses. Ses meilleurs jours sont devant nous, incha'Allah, à qui Allah aura prêté vie. Ses meilleurs jours sont devant nous. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jour meilleur que les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, le mois particulier du pèlerinage, le 12e mois donc de l'année musulmane. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étonnés lui ont dit, jour meilleur, ou les jours meilleurs où les bonnes œuvres sont agréées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit même le djihad. Il a dit même le djihad, sauf bien sûr celui qui sort avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que sa parole soit élevée et qu'il ne revienne pas. Un hadith authentique, ce qui a amené les gens qui font la compétition de rechercher ces jours-là. Ce sont des jours qui sont bénis. Ce sont des jours qui sont bénis, Allah les a choisis et n'a besoin de rien. Et ce n'est pas la couleur du soleil ni la température qu'il fait qui fait la beauté d'un jour ou la beauté d'une personne. C'est ce qu'Allah définit et le poids qu'il donne à chaque chose. Il a voulu que ces jours, il a juré par ces jours, d'après une des interprétations des premiers versets par lesquels il a juré, donc dans la sourate Al-Fajr, l'aube. Quand il dit, et par l'aube, et par les 10 nuits, les Arabes, dans leur beauté linguistique, juraient par la nuit quand ils voulaient dire le jour, disent certains exégètes. Dans ces 10 jours, Allah a mis, ordonné le hajj, et celui qui fait le hajj, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui évite ce qui est interdit, revient chez lui comme le jour où sa mère l'a mis au monde, c'est-à-dire sans aucun péché. Il a mis dans ces jours du Hajj en particulier le meilleur jour pour les invocations, qui est le jour de Arafah. Le Hajj n'est-il pas défini par Arafah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit le Hajj, c'est Arafah. Arafah est le 9e jour de l'année, 9e jour du mois, donc du 12e mois qui est Dhul-Hijja, donc de l'année musulmane. Arafah est le jour qui, quand on le jeûne, grâce à Allah et pour Allah, il pardonne les péchés véniels d'une année, de deux ans, l'année dernière et l'année d'avant. Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, que ces 10 jours, il les a bénis. Il y a mis le meilleur des jours. Le jour le plus aimé d'Allah, c'est le jour de l'Aïd al-Adha, le jour du sacrifice. C'est le jour du sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala a aimé ce jour, a donné comme cadeau ce jour à la communauté d'Ibrahim alayhi salatu salam, qui, comme vous le savez, Allah l'a éprouvé. Et donc ensuite, il l'a récompensé par ce sacrifice et cet honneur dans ce bon monde avant l'au-delà. Les 10 jours ont été également honorés par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et certains exégètes du Coran, les Mufassirun, Ibn Kathir en particulier, rapportent que les 10 jours de Dhul-Hijja correspondent aux 10 jours que Allah a rajoutés lors de sa rencontre avec Moussa alayhi salam, quand il a invité, l'a honoré, il a parlé de vive voix pendant Dhul-Qa'da, les 30 jours, et a rajouté 10 jours. On dit que ces jours correspondent aux 10 jours donc de Dhul-Hijja. Et Allah honore qui il veut, où il veut. Il a honoré le territoire sacré, il a rendu sacré par Ibrahim a.s. Et c'est le meilleur endroit sur la terre qui est donc la Kaaba et qui est la Mecque qu'il a rendu donc sacré, subhanahu wa ta'ala. Pendant ces jours, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire? Bien sûr, tout bien. Tout bien. Surtout, ce sont les derniers jours de l'année, puisque c'est les 10 premiers jours du dernier mois. Et donc, celui qui est privé de bien est privé de tout bien, en réalité. Ces derniers jours sont les jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui connaissait le mieux son Seigneur, il était certainement le meilleur des adorateurs, mais il multipliait encore les bonnes œuvres, et en particulier le jeûne. Le jeûne est conseillé pendant ces jours, pas seulement le jour de Arafah, mais certaines de ces femmes ont rapporté qu'ils jeûnaient les 9 premiers jours, le 10e étant l'Aïd, et le jeûne de l'Aïd est interdit. Le jeûne de l'Aïd est interdit, comme le jeûne des 3 jours qui suivent l'Aïd al-Adha. Donc l'Aïd, c'est le 10 de l'Hijja, le 11, le 12, le 13, le jeûne est également interdit. Celui qui le fait, même si ça tombe, donc on sait que le 13, 14, 15 sont les jours blancs. Et certains d'entre vous, alhamdoulilah, jeûnent ces 3 jours. Mais il est interdit de jeûner le 13. Il est interdit de jeûner le 13 si c'est Allah que tu adores et pas tes passions. En voulant dire oui, mais moi c'est tous les 13. Mais pourquoi tu jeûnes le 13? Parce que si tu le veux ou parce que Allah aime le jeûne de ce jour-là. Alors il te l'interdit. Si tu l'interdis, tu n'as pas à jeûner ce jour-là. Et les jours d'avant également sont donc des jours où il est bon de jeûner, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur exemple qu'Allah nous donne, il jeûnait ce jour-là. Nous avons vu que Arafah, Allah a particulièrement honoré ce jour et son jeûne avec le pardon les autres jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui jeûne pour Allah seul, visant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, un seul jour, il n'a pas précisé le jour, un seul jour, n'importe lequel des jours, Allah éloigne sa face de l'enfer de la descente de 70 années de marche. Un seul jour. Et il se peut que tu ne jeûneras pas l'année d'après ou que tu ne verras pas l'année d'après. Dommage. Pour l'insouciant ou le négligent, parce que demain, certainement, il va le regretter. Ça, c'est le jeûne. Il y a également d'autres formes d'adoration, qui est le dhikr en général, et Allah l'a facilité. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ce sont des adhkar, ce sont des rappels, ce sont des évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aime. Et le meilleur d'entre nous n'a-t-il pas dit qu'il y a 2 mots qui sont légers, et Allah est miséricordieux. Léger sur la langue, lourd dans la balance, et aimer du miséricordieux. Quand ne serait-ce qu'aimer du miséricordieux doit te suffire. N'aimerais-tu pas celui que tu prétends aimer, Allah subhanahu wa ta'ala? Léger sur la langue, c'est quoi? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Donc, déjà, c'est par Allah, son évocation de notre pauvre existence qui fait qu'on se rappelle de lui. Alors tu vas être honoré, celui qui évoque Allah dans une... Seul Allah l'évoque, subhanahu wa ta'ala, en lui-même. Celui qui évoque Allah dans une assemblée meilleure, Allah l'évoque dans une assemblée meilleure, qui est l'assemblée des anges. Qui es-tu pour être évoqué par le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala? Qui es-tu pour que Allah te compte parmi les gens qui l'évoquent? Ce dhikr n'est pas le seul, c'est toutes les formes de dhikr, à savoir le fait de lire le Coran, le fait de lire le Hadith, le fait de tout ce qui t'amène à te rappeler Allah, de méditer sur la création des cieux et la terre, et que dis-je, toutes les formes d'adoration sont bonnes, en particulier le fait de dépenser, le fait de renouer le lien de parenté, le fait de pardonner à quelqu'un, le fait de secourir un autre, de prier pour quelqu'un d'autre, notamment le jour de Arafat. On n'attend pas bien sûr Arafat, il se fait qu'on ne le voit pas, certains d'entre nous. Mais Arafat, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jour où les invocations sont les plus exaucées. C'est le jour où Allah a franchi de l'enfer une majorité, yani, des habitants de cette terre pendant cette année-là. Et il suffit comme honneur pour ce jour, que Allah subhanahu wa ta'ala ait fait descendre quand il était donc sur le mont Rahma, quand il a fait son dernier pèlerinage, c'est le seul qu'il a fait dans sa vie sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a laissé les indications et ses conseils à cette communauté devant entre 100 000 et 140 000 compagnons du professeur sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fini son discours, il a dit, est-ce que j'ai fait parvenir mon message? Quand vous allez être interrogé devant Allah pour savoir est-ce que j'ai fait parvenir mon message. D'une seule voix, ils sont tous dire, nous attestons que tu as fait parvenir ton message, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous attestons qu'il a fait parvenir son message, sallallahu alayhi wa sallam. Il a à peine fini cela que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé le verset 3 de la sourate Maïda. Aujourd'hui, les non-croyants désespèrent de votre religion. Ne les craignez pas, craignez-moi, dit Allah. Aujourd'hui, j'ai parfait mes bienfaits sur vous et agréé l'islam pour vous comme religion. Et donc, ceci a été fait le jour de Arafat. C'est un honneur que Allah a accordé à Arafat. Et un juif a dit un jour à Omar al-Khattab, qu'elle a l'agré, nous trouvons, je trouve plutôt, dans votre livre, un verset qui, si ce verset nous avait été révélé, nous, communauté de Moussa, alayhi salatu salam, on en aurait fait une fête. Omar lui demande quel verset. Il a dit, c'est le verset que je viens de vous citer, verset 3 de la sourate 5. Et Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, il lui a dit ce verset, je sais où il a été révélé, quand il a été révélé. Et c'était effectivement à Arafat, donc le 9 de l'Hijja, pendant donc l'année 9 de l'Hijra, que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset, yani pour faire de nous la meilleure communauté qu'il a suscité pour les gens, pour être satisfait. Et qu'est-ce que tu peux chercher de mieux? Satisfait de celui qui se rapproche de lui sincèrement, que pour lui et par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, mes sœurs, parmi ces jours, le meilleur, nous avons dit, c'est le jour de l'Aïd, c'est le jour du sacrifice. Honorant Ibrahim alayhi salam et sa foi véritable et sincère de n'adorer qu'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a assumé, qu'il a valu dans ses bas mondes l'honneur, et dans l'au-delà, il sera parmi les honorés. Alayhi salam. Cet honneur se traduit donc par le sacrifice d'un bélier, d'une chèvre, d'un chameau ou d'une vache. Pas autre chose de ce qui a été légiféré. Ce n'est pas une fête dans le sens de « je vais aller prendre des poulets, je n'ai pas le moyen, parce que je l'entends, je le lis, je n'ai pas les moyens de dégorger un mouton, donc je vais égorger ce que je veux. » Non, comme vous le savez, l'adoration d'Allah à l'ibadah, un tawqifi, on s'arrête là où Allah s'est arrêté, ce n'est pas par oubli. Si tu n'as pas le moyen de le faire, tu n'as pas à le faire. Par contre, si tu as le moyen de le faire, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a le moyen de le faire, de sacrifier ce jour, et qu'il ne le fait pas, qu'il ne se rapproche pas de notre lieu de prière. Donc c'est une sunna qui est plus que renforcée. De quoi s'agit-il? Techniquement, il s'agit de sacrifier le jour de l'Aïd après la prière. Celui qui a sacrifié avant la prière, il n'a que de la viande. Celui qui est sacrifié après la prière, il a rempli, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna, il a fait un vrai sacrifice, et il a rempli la sunna des musulmans. Après l'Aïd, après la prière de l'Aïd, donc jusqu'au troisième jour de Yom Tashriq, les jours appelés comme ça parce que les Arabes d'antan, quand ils avaient sacrifié, ils laissaient sécher la viande. Donc c'est les jours qui suivent donc, le jour de l'Aïd. Donc le 10 après la prière, le 11, le 12 et le 13. Il est permis, il est même ordonné au chef de famille. Et un sacrifice suffit par famille. Si la famille est réunie, et il y a beaucoup de chefs de famille, alhamdoulilah, entre le père, le grand-père et les enfants qui ont les moyens de le faire, un sacrifice suffit, mais bien sûr, c'est mieux que chacun sacrifie pour lui-même parce qu'au jour de la résurrection, comme l'a dit le prophète sallam, l'animal sacrifié viendra, sera ressuscité avec ses cornes, avec ses poils, et tout le sang qui touche la terre sera déjà récompensé lors du sacrifice avant même qu'il ne touche la terre. C'est facile à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on savait, beaucoup de gens manqueront de bonnes actions ce jour-là. Chaque poil sera compté comme une bonne action, voire plus. Et donc celui qui, par négligence ou par avarice, ne le fait pas, il n'est avare que contre lui-même. Allah se passe de tout. Donc techniquement, c'est le bélier, la meilleure bête. Mes frères et sœurs, c'est la meilleure bête. Ce n'est pas la moins chère, comme certains le cherchent. C'est la bête qui est saine de corps, où on ne voit pas, qui est ni boiteuse, ni maigrichonne, ni aveugle, ou borgne, ou des choses comme ça. C'est la meilleure bête. Et le prophète sallam a sacrifié une bête que l'on voit encore, que notre mère Aïcha, qu'Allah l'agré, disait qui mangeait dans le noir et qui broutait dans le noir. Donc, le meilleur bélier. Quand on donne à Allah, on donne à Allah le meilleur. Nous, c'est ce dont on n'a pas besoin. La bête, elle est maigrichonne, on la vend à solde, et donc tu peux prendre ça à 50 euros, les autres, je les vends à 200, donc c'est une bonne occasion. Non, c'est une mauvaise occasion. Allah se passe de tout. Tu dois chercher le meilleur pour sacrifier. Et donc, ceci est vrai pour le mouton, pour le bélier, c'est vrai pour autre chose. De ton temps, tu dois sacrifier le meilleur. De ce que tu donnes ton argent, tu dois sacrifier ce à quoi tu tiens. De tes habits, ce que tu dois donner, c'est le meilleur. Et donc, par conséquent, c'est le meilleur que l'on doit. De tout, on doit donner le meilleur. Allah, tout lui appartient. Et donc, pour le veau ou pour la vache, 7 personnes peuvent s'associer comme pour le chameau, que je n'ai pas beaucoup vu courir dans les rues ici. Donc, ça, on peut s'associer. Mais pas pour le mouton. Est-ce que je peux m'associer avec mon frère, mon ami, pour sacrifier un mouton? Non, ce n'est pas permis. Et on a dit, c'est tawqif. Tu t'arrêtes là où le prophète s'est arrêté. Et ce n'est pas permis. Soit tu as les moyens, soit tu ne l'es pas. Et si tu n'as pas de moyens, alhamdoulilah, Allah te le comptera si vraiment tu es sincère. Mais si tu as les moyens que tu ne le fais pas, Allah se passe des mondes. Et donc, exiger la qualité. Notre religion n'est pas la nôtre. Nous y avons adoré. Inna dina inda Allahi l'islam. La religion pour Allah, c'est l'islam. C'est sa religion. Et donc, tu ne peux pas la vendre à vil prix ou parce que tu veux faire des soldes. Non. On remercie Allah de nous avoir guidés. Sans lui, on serait tous égarés. Et donc, on n'a pas le droit d'inventer des choses dans la religion. On suit celui qui l'a envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, comme miséricorde pour l'humanité. Pour terminer, ceux qui ont décidé de sacrifier, qu'Allah leur facilite et accepte, se doivent, a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne touchent à rien, ni aux cheveux et poils, ni à leurs ongles, ni à leur peau. Ça, c'est, ils s'associent, disent les savants, quelque part, aux pèlerins en état de sacralité. Bien sûr, le pèlerin, lui, celui qui, en particulier, fait la omra, va nécessairement se raser ou se couper les cheveux. Ça lui est permis, bien sûr. Celui qui a eu un accident, qui a un problème à la peau ou aux ongles, va le faire. Celui qui n'a pas fait exprès et par le stress qui se met donc, à ronger ses ongles, il n'a pas à le faire, mais il ne doit rien. Mais ça, ce n'est pas un péché. Là où c'est un péché, c'est le fait de le faire exprès. On entend et on lit les choses, disent les savants, c'est eux qui le disent, que celui qui décide de sacrifier, mais puisqu'il a oublié, il a mangé de ses ongles, ou il s'est rasé, alors celui-là, il ne peut plus le faire. Non, c'est Shaitan qui t'éloigne du bien. Tu peux le faire, tu dois revenir vers Allah repentant, mais tu n'as pas de compensation à faire. Il n'y a pas de compensation. Si tu l'as fait non exprès, alhamdoulilah, Allah ne nous en veut pas. À cause du professeur, sallallahu alayhi wa sallam, elle qui nous a dit, à cause de moi, Allah n'en veut pas à ma communauté pour ce qu'elle a pu faire comme des péchés par erreur, par oubli ou par contrainte. Donc, ça va commencer, inshallah, soit le dimanche, soit le lundi. Mais on le saura, inshallah, samedi soir, quand les autorités saoudiennes décideront de Arafat. Et Arafat, ce n'est pas Bellefontaine. Arafat, ce n'est pas Tombouctou. Ah non. À Arafat, c'est tel jour. Mais dans notre pays, c'est tel autre jour. Tu as un Arafat chez toi ? Arafat est fixé par les autorités. Donc, c'est eux qui vont fixer que Arafat sera soit le 20, soit le 21, selon que l'Aïd soit le 21 ou le 22. Donc, on le saura, Inch'Allah, samedi soir. À partir de ce moment, avant samedi soir, tu te dois, Yanni, de couper des choses que tu as coupées. Tu rentres par un état de sacralisation. Et ceci ne concerne pas la famille. Également, ce sont des choses que l'on entend. Par exemple, certains disent, puisque nous, on va égorger, mon père ou mon mari va égorger, donc va sacrifier un bélier. Donc, tout le monde doit s'abstenir de couper les cheveux, etc. Non, ça ne concerne que la personne qui sacrifie. Et toi qui ne sacrifies pas et qui délègue, c'est possible de déléguer. Le prophète sallam a égorgé de ses mains, béni sallallahu alayhi wa sallam, 63 chameaux, et il en a laissé 37 à Ali Kalalagré. Ensuite, il a pris un morceau de chaque et il a ordonné d'en faire un plat que les pèlerins, qu'Allah les bénisse tous et qu'Allah les agrée, ont goûté. Donc ça, c'est lui, on peut déléguer, mais à condition que ce soit fait dans les règles de l'islam. Et celui qui est chargé de sacrifier pour quelqu'un d'autre n'est pas concerné par le fait de couper les ongles, les poils, la peau ou autre chose. Il n'est pas, ce n'est pas lui, le boucher, sauf s'il est fait pour lui-même aussi. Quand on charge quelqu'un, parce que certains ont envoyé de l'argent à je ne sais où, et c'est lui qui le sacrifie pour quelqu'un d'autre, n'est pas concerné. Par contre, si tu l'as envoyé, tu es concerné, même si ce n'est pas toi qui sacrifie, puisque c'est toi qui décides de sacrifier pour Allah. Tu n'as fait que déléguer. Donc le délégué est la personne concernée, même si elle sacrifie, même si elle, celui qui délègue plutôt, est la personne concernée, et celui qui est délégué n'est pas concerné par cette donc, restriction qui n'est que et une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez d'autres questions à poser, inshallah, on est à votre disposition. Je sais que c'est technique, mais je crois que c'est important pour celui qui veut suivre donc, la meilleure des attitudes qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد